Comme j'ai fait un verset dans l'introduction, ça avait de l'air compliqué, souverain, sacrificateur, sacrificateur, ça sert à quoi? Parce qu'on n'est pas habitué avec ce mot-là. Le mot utilisé aujourd'hui, c'est prêtre. C'est le même mot. Parce que les sacrificateurs, c'était des prêtres. Mais le mot français, on utilise dans la Bible Louis II, quand ils l'ont traduit, ils ont mis sacrificateur, ils auraient pu mettre le mot prêtre. Le mot prêtre, c'est pas un mot qui appartient à l'Église catholique. C'est un mot qui appartient à la Bible. Parce que les prêtres, dans la Bible, il y avait la fonction d'offrir les sacrifices à Dieu dans l'Ancien Testament, bien avant que l'Église catholique, elle existe. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va encore bien plus vous étonner. Parce qu'on est en train d'étudier les nouvelles positions qu'on a en Jésus. Lorsqu'on s'est converti au Seigneur, la Bible nous dit qu'on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes s'est passées. Tous tes péchés, ta mauvaise vie, tes désobéissances, ton mal que tu as fait, le Seigneur te pardonne. Quand tu viens à Jésus, tu es lavé par le sang de Jésus. Maintenant, c'est les mérites de Jésus qui sont sur toi. Puis là, à partir de ce moment-là, à cause que tu es pardonné par Dieu, parce que tu as reconnu que Jésus t'a mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis tu t'es repenti, tu l'as reçu, tu reçois le pardon. C'est un cadeau gratuit que Dieu donne. Mais il donne pas juste le pardon. Il te donne son Saint-Esprit. Puis là, quand tu reçois son Saint-Esprit en te convertissant, mais ta nouvelle vie commence. Il y a une nouvelle vie qui commence. Parce que quand Dieu rentre dans la vie d'une personne, sa vie est complètement changée. À part des changements qu'on constate de nos yeux en regardant la personne, mais il y a des changements de position devant Dieu, des nouveaux statuts. Dieu nous déclare, mettons un exemple, qu'on est des enfants de Dieu. À partir de ce moment-là, on est déclaré des enfants de Dieu, on est déclaré des saints. Puis il y a plein de statuts de même qu'ils nous ont été donnés. On en a vu 14 jusqu'à date, puis il en reste encore une coupe à voir. Là, aujourd'hui, un des nouveaux statuts qu'on a reçus en Jésus parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, nous sommes devenus, grâce au Christ, des sacrificateurs. Des prêtres. Non, mais des prêtres de Dieu. Des sacrificateurs de Dieu. Là, ça a de l'air bizarre parce qu'on est habitué à penser prêtres, c'est ceux qui s'occupent de l'Église catholique. On va voir le sens du Nouveau Testament, l'enseignement de la Bible. J'ai une question. Cherchez-vous à vous positionner dans la vie, à dire, moi, il faut que je me place les pieds, il faut que j'aille une bonne job, puis il faut que je gagne un bon fonds de pension, il faut que je me prépare d'avance. La plupart des gens pensent à bien se positionner humainement parlant, physiquement, monétairement. On veut se placer les pieds, on veut être en sécurité, tout ça. Avez-vous trouvé votre place dans ce monde pour y arriver? Il y en a que oui, il y en a que non. Parce que c'est pas tout le monde qui a réussi financièrement. Puis du moment qu'au moins qu'on survit, merci Seigneur, on survit. Mais devenez sacrificateur, vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Devenez un sacrificateur, devenir un prêtre de Dieu est la plus grande vocation qu'on peut recevoir de Dieu. Il n'y a rien de plus grand, de plus honorable d'être un sacrificateur de Dieu pour Dieu, puis un avenir extraordinaire pour ceux qui le deviennent. Comme j'ai dit tantôt, c'est un nouveau statut qu'on reçoit lorsqu'on se convertit au Seigneur. On va comprendre ça un peu, comment est-ce que ça doit être dans la pratique d'un sacrificateur. C'est quoi son travail, sa job, ou comprendre aussi ses avantages. On va tout voir ça tantôt. Dans le dictionnaire hébreu, pour comprendre que ce mot-là vient de l'Ancien Testament, puis l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Dans le mot hébreu, ce mot-là, puis sacrificateur, c'est à Kohen. Kohen, il y a encore des gens sur la terre qui s'appellent Kohen, qu'on en a connu quelques-uns. Puis le mot Kohen, ça veut dire sacrificateur. Fait qu'il y avait son prénom, puis il y avait son nom de famille Kohen, il faisait partie de la lignée de ceux qui devaient être sacrificateurs. Selon l'ancienne alliance des Juifs dans l'époque de où ce que Moïse a établi la loi, puis les rituels, puis toutes les manières de s'approcher de Dieu pour offrir des sacrifices à Dieu, selon l'Ancien Testament. Cohen, c'est K-O-H-E-N. Dans le, mais ça, c'est la phonétique, là. Il y en a qui l'écrivent avec un C, puis il y en a qui c'est avec un K. Mais ça veut dire sacrificateur, prêtre, ça veut dire sacerdoce ou ministre d'État. Parce qu'il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient le rôle de sacrificateur ou du souverain sacrificateur, ils tombaient aussi en autorité au niveau de la politique parmi les Juifs. C'est un titre honorifique. Ça voulait dire chef ou prince aussi, ce mot-là. Parce qu'il tombait en autorité sur les Juifs. C'est lui qui devait expliquer la loi, puis enseigner les gens, mais offrir aussi les sacrifices. Mais il y avait un paquet de sacrificateurs. Pour les Juifs, comme je vous disais, au temps biblique, les souverains sacrificateurs étaient les chefs du peuple juif. Ça, on voit ça dans les Actes, au chapitre 23, les versets 4 et 5. On voit ça dans un passage que l'apôtre Paul est en train de prêcher, puis il y en a un qui ordonne que de frapper la joue à Paul. Puis Paul, il a répliqué, il a répondu peut-être avec une parole directe, « Dieu te frappera, muraille blanchie, parce que tu as ordonné qu'on me frappe, puis c'était injuste. » Il a répondu sec, ça arrive à des gens, mais il y a des gens qui ont repris Paul. Puis Paul, il répond quelque chose, puis c'est ça qu'on va comprendre. Dans sa réponse, le rôle d'un sacrificateur, dans Actes 23, versets 4 et 5, et ceux qui étaient près de lui disent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu parleras pas mal du chef de ton peuple. » Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ils étaient en autorité, puis ils pouvaient ordonner des choses. Puis de contrôler comme politiquement la politique du peuple juif. Mais il ne faut pas oublier que le peuple juif est sous l'autorité des Romains aussi dans cette époque-là. Là, je vais vous expliquer quelque chose à propos de Jésus. Parce que tout le monde le sait que Jésus, on le dit, c'est le Seigneur, c'est le grand chef, c'est lui le souverain sacrificateur. Mais selon la loi, Jésus ne pouvait pas être le souverain sacrificateur, il pouvait pas être le grand chef, il pouvait pas être le boss, puis d'avoir le poste d'autorité suprême sur les Juifs. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs devaient être choisis dans la tribu des Lévites. Jésus n'était pas de la tribu des Lévites, il était de la tribu de Juda. Et les souverains, ça c'est pour les sacrificateurs, et les souverains sacrificateurs étaient choisis dans la lignée d'Aaron, qui était le frère de Moïse. Puis c'est de descendant en descendant qu'il avait par descendance, il obtenait les postes de souverain sacrificateur. C'est une lignée spéciale qui s'appelait, encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Cohen, le nom de famille. Ils font partie de la lignée des descendants d'Aaron. Puis eux autres, ils avaient le droit d'être les chefs du peuple juif. Jésus n'était pas de la tribu des Lévites. Puis vu qu'il n'était pas de cette tribu-là, il était loin d'être un des descendants d'Aaron. Et à cause de cela, il ne pouvait pas être le grand chef des Juifs. Ni grand roi, ni rien, il pouvait pas. Mais, le beau mais, le grand mais, puis il est très important ce mais-là, Dieu a préparé une autre manière de devenir le grand chef. Pas parce qu'il serait descendant d'Aaron. On va aller voir quelques passages dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 5. Puisque ce qu'on va comprendre, c'est que Jésus ne pouvait pas s'attribuer lui-même le rôle de souverain sacrificateur, ou le chef, ou le prince, ou le roi. Il ne pouvait pas se l'attribuer. Il n'était même pas un descendant d'Aaron. Mais il détient ce titre par prophétie de Dieu son Père. Puis vous allez voir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophéties, des paroles de Dieu, puis Dieu a préparé la venue du oint, du Messie. Puis Dieu a établi ce Messie-là comme étant le chef des Juifs. Dans Hébreux 5:5, ça nous dit, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux font référence à un passage dans l'Ancien Testament d'une prophétie qu'on retrouve dans le psaume chapitre 2, les versets 1 et 2. Puis dans ce psaume-là, c'est David qui a écrit ce psaume-là, inspiré par le Saint-Esprit. Dieu lui a dit des paroles d'un chant, mais le chant annonçait un message de la venue de quelqu'un qui deviendrait le roi d'Israël. Dans le psaume 2, les versets 1 et 2, ça nous dit, dans les deux premiers versets, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? » Là, il est en train de nous dire qu'il y a une rébellion qui est en train de se faire dans ce monde, en particulièrement parmi les Juifs, contre le oint de Dieu le Père. Dieu le Père avait promis qu'il nous enverrait un Messie, un oint. Il l'a promis aussi dans d'autres passages qui nous annonçaient la venue de celui qui écraserait la tête du serpent, celui qui ferait qu'il prendrait sur lui nos péchés, etc. Puis là, ça nous parle que du monde qui se ligue contre son oint, puis juste deux versets plus loin, au verset 6, ça nous dit, dans la même idée, ça parle encore du oint, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. » Jésus est roi, est oint de Sion. Vous allez voir, ma montagne sainte. Et je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu, en déclarant que ce serait lui qui oindrait le roi, et non pas un descendant d'Aaron. Dieu oindrait un roi, puis il sera roi de la montagne de Sion. Sion, ça représente le ciel. Ça représente la demeure de Dieu. Ça représente le royaume de Dieu. Dieu était pour oint. Oint, c'est onction. Oint, ça veut dire un Christ, Messie. Oint, c'est le même mot, c'est tous des synonymes. Dieu était pour faire qu'une personne serait le Messie, le oint, décidé par Dieu et non pas de la lignée d'Aaron. Puis Dieu l'appellera son fils, que Dieu aura engendré. Voyez-vous, dans cette prophétie-là, ça nous annonce que Dieu décide qui va être le roi de Sion, puis c'est pas de la descendance d'Aaron. Dans un autre passage, le Seigneur a aussi donné une prophétie d'être le sacrificateur pour Dieu, puis pour l'éternité. Une autre prophétie dans un psaume, le psaume 110, les versets 1 et 2. C'est un psaume de David, ça nous dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Dieu le Père a parlé à quelqu'un puis il dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. » Puis il dit à ce personnage-là « Domine sur tes ennemis. » Puis là, le verset 4, ça nous dit, « L'Éternel l'a juré, puis il s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Dieu, dans l'Ancien Testament, a annoncé prophétiquement que celui qui est placé à sa droite, Jésus, il est le oint, le Messie, le Christ, il est celui qui a été établi roi sur Sion, pas parce qu'il était descendant des Lévites, pas parce qu'il était descendant d'Aaron, il était placé là par prophétie, par Dieu, son Père, qui a dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Voyez-vous, Jésus détient son titre de chef de Sion. Jésus le dit qu'il était le roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde, c'est un roi pour après. Il va prendre le contrôle un jour, mais après, il laisse encore le temps libre aux humains de rechercher à connaître la vérité. Jésus a été déclaré par Dieu son Père souverain sacrificateur pour toujours, pour l'éternité, mais pas selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre de Melchisédek, qui est un autre personnage qui a existé, qui est un sacrificateur de Dieu, mais dans l'Ancien Testament, avant que la loi vienne. C'est selon une autre lignée de sacrificateurs que Jésus est venu comme étant le dernier souverain sacrificateur irremplaçable, parce que les sacrificateurs étaient remplaçables lors de leur mort. Mais Jésus, qui est ressuscité et qui vit éternellement, il est souverain sacrificateur pour à jamais, pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. En tant que souverain sacrificateur, leur principale fonction, parce qu'il y avait les sacrificateurs, mais le chef des sacrificateurs, c'était le souverain sacrificateur, il y avait une fonction à faire parmi les Juifs, c'est qu'il allait offrir du sang une fois par année dans le lieu très saint. Les Juifs avaient, au début, c'était une tente, après ça, c'était transformé en bâtisse, en bâtiment. C'était la maison de l'Éternel. Puis c'était séparé en deux parties. Puis il y avait un gros rideau à l'intérieur qui séparait la partie du lieu saint puis le lieu très saint. Les sacrificateurs pouvaient rentrer comme qu'ils voulaient, on va le voir dans les passages, là. Puis ils rentraient dans la première partie, puis ils allaient offrir les sacrifices à Dieu pour le pardon des péchés de monsieur tout le monde. Si je voulais être pardonné, j'amenais un taureau, j'amenais un agneau, ou j'amenais des tourterelles, j'offrais ça à Dieu. Là, il tuait l'animal, il récupérait le sang, puis il servait du sang de l'animal pour aller l'offrir sur l'autel dans le lieu saint pour pouvoir obtenir la purification de mon péché. Mettons, j'ai fait un péché, j'offre ça. Puis les sacrificateurs faisaient ça, mais le souverain, le chef des sacrificateurs, rentrait une fois par année dans le lieu très saint, en arrière, là où demeurait Dieu, d'une manière de le comprendre de ce temps-là, dans le lieu très saint. Dieu, il manifestait sa présence puissamment dans ce lieu-là. Puis la gloire de Dieu était souvent là, puis des fois c'est arrivé que des sacrificateurs qui ont mal fait le job sont tombés morts direct là. Apparemment, que on voit ça dans les autres écrits qui sont pas dans la Bible, quand un souverain sacrificateur ou un sacrificateur allait offrir des sacrifices, il avait la crainte de Dieu, puis il offrait les choses de la bonne façon, mais si le gars n'avait pas la crainte de Dieu, il pouvait tomber raide mort direct là. Là, il attachait une corde après le gars avant qu'il rentre pour le ressortir en cas qu'il soit tombé mort. Parce qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans ce lieu très saint-là. Il y avait juste le souverain sacrificateur qui rentrait là une fois par année, voyez-vous, pour aller offrir un sacrifice pour ses péchés, pour les péchés de tout le peuple. C'est la fête de l'expiation. Puis je pense que cette fête-là est en automne pour les Juifs. Ils fêtent encore cette fête-là, mais ils ne pratiquent plus encore tous les rituels, là. Mais j'espère que je ne vous ai pas mêlé. J'essaie de mettre ça le plus clair possible. Jésus, en étant le souverain sacrificateur, fallait qu'il fasse de quoi de spécial. Parce que le souverain sacrificateur parmi les Juifs faisait de quoi de spécial une fois par année. Il allait offrir le sang d'un animal pour le pardon de tout le monde. Mais Jésus, le souverain sacrificateur, fidèle à son appel, parce qu'il avait été appelé par Dieu son Père pour faire cette mission-là de souverain sacrificateur, il a reçu ce titre-là de son Père, prophétiquement, dans l'Ancien Testament. Il a été fidèle, puis il a fait l'expiation des péchés. Dans Hébreux 2, le verset 17, ça nous dit, en conséquence, en parlant de Jésus, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, c'est pour ça qu'il est venu prendre une forme humaine comme nous, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du monde. Jésus est venu comme étant le souverain sacrificateur, puis il fallait qu'il vive, il fallait qu'il soit fidèle. Fallait qu'il obéisse entièrement à tout ce que Dieu, son Père, avait établi dans la loi. Parce que si Jésus aurait fait un seul péché, il n'aurait pas pu payer pour la dette de nos péchés. Il aurait eu besoin d'un sauveur lui-même. Jésus a été fidèle, il a accompli la parole de Dieu. Il dit, je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Il l'a accompli parfaitement, sans tomber dans aucun péché. Puis c'est pour ça qu'il est un souverain sacrificateur, miséricordieux, compatissant. Il comprend nos souffrances, il comprend nos combats, il comprend nos luttes, il comprend notre état, parce qu'il est venu lui-même dans un corps comme le nôtre. Mais lui, il a marché droit, il a fait la volonté de Dieu toute sa vie, puis il a accompli lui-même le sacrifice qui permettait de sauver tout le monde. Il a donné sa vie en mourant sur la croix, il a accepté de verser son sang pour que lui devienne l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus est maintenant ressuscité. Il n'est pas resté dans la mort. Oui, Jésus est mort sur la croix. Mais il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité le troisième jour. Puis il s'est montré à ses disciples. Il a apparu pendant 40 jours à ses disciples. Pour leur donner des preuves qu'il était vivant. Puis il leur a expliqué les choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais Jésus, après qu'il soit ressuscité, il est allé dans la présence de Dieu, dans le ciel, il est allé porter son sang dans le lieu très saint, le réel lieu très saint, d'où est la présence de Dieu. Parce que le lieu très saint, dans le temple des Juifs, c'était un exemple des choses qui sont dans la réalité. Puis le lieu très saint, c'est la présence de Dieu dans le ciel. Jésus, la Bible nous dit dans Hébreux 9, 11 et 12, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est le chef des sacrificateurs des biens à venir. De ce qui est à venir, c'est dans le ciel. Il a traversé l'habitation la plus grande et la plus parfaite, qui n'est pas construite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est rentré dans le ciel même. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs puis des taureaux puis des veaux, mais avec son propre sang et ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu un rachat possible pour tout le monde. Il a obtenu qu'on puisse être racheté gratuitement. À cause qu'il ait mené son sang-là, ça l'a permis qu'on puisse être, que Dieu paye la dette de nos péchés à notre place. Grâce à Jésus, on a un accès maintenant à rentrer dans le lieu très saint. En nous délivrant de nos péchés, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est parce que tu crois là, que tu es pécheur, tu crois que tu es perdu parce que tes péchés t'empêchent d'entrer, tu crois que tu as besoin d'un sauveur. Là, tu sais que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, mais là, tu l'acceptes, c'est une bonne raison de l'accepter, puis je vous encourage à le faire, de l'accepter comme votre sauveur, puis de garder la foi que c'est grâce à Jésus qu'on va rentrer au ciel. À cause que tu l'acceptes, le Seigneur, dans ta vie change, comme je disais au début, tu deviens une nouvelle personne, puis maintenant, à cause que tu as reçu le pardon de tes péchés, tu es maintenant un sacrificateur de Dieu. Wow, c'est quoi qu'on a à faire? C'est quoi ça d'être un sacrificateur? Mais Jésus, ça nous dit dans l'Apocalypse au chapitre 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a accepté le sang de Jésus comme offrande, ce qui nous a permis à nous de recevoir le pardon, puis de rentrer dans son beau et grand royaume, puis fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Wow! On est loin de le mériter. On ne méritait rien. On ne pouvait même pas penser d'entrer. Il a fallu que Jésus paye le prix pour qu'on puisse rentrer. À cause du sang de Jésus, on a maintenant l'accès d'entrer dans son royaume, mais en plus de devenir un sacrificateur de Dieu, nous sommes, quand tu nais de nouveau, tu es devenu un prêtre de Dieu, un sacrificateur de Dieu, un chef du peuple. C'est pas encore fait, là, le chef. Pensez pas que vous allez être le chef à votre job, là. C'est pas nécessairement de présentement. Mais il y a de quoi qui s'en vient, puis on va rester surpris, mais que ça arrive. Pas juste nous autres vont être surpris, tout le monde qui vit sur cette terre va être surpris lors du retour de Jésus. Amen. Quelles sont les fonctions et les avantages d'être un sacrificateur? C'est ça que je vous disais tantôt. On a la plus belle, la plus grande vocation. C'est un appel, ça. Dieu nous a appelés puis a dit, « Sais-tu que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés? Là, je ne savais pas, mais là, je le sais. » Puis quand tu le sais, là, c'est parce que tu es appelé par Dieu. Si tu as compris ça, que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, c'est parce que tu es appelé. Dieu t'appelle à faire partie de son royaume puis à devenir un sacrificateur. Dieu veut que tout le monde le devienne. Puis si tu comprends aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, tu es un appelé, c'est un appel, c'est une vocation. Dieu nous appelle à devenir des sacrificateurs de Dieu. Mais il y a des avantages d'être l'être, puis il y a aussi des fonctions, il y a des tâches, il y a des responsabilités d'être dans ce rôle-là. Les sacrificateurs, pour garder quelques petits parallèles avec les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ça nous donne des exemples pour voir quel genre de vie qu'on doit vivre une fois que tu l'es sacrificateur. Mais Exode 19, vers le verset 22, les sacrificateurs devaient se sanctifier. Wow, c'est quoi ça, ce mot-là? Les sacrificateurs, puis Dieu nous dit ça dans Exode 19, le verset 22, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel les frappe de mort. Dans l'Ancien Testament, c'était terrible. Il n'y a pas de jeu avec le péché. Comme je vous disais tantôt, si un sacrificateur rentrait dans le temple et ne s'était pas sanctifié, il n'a pas fait tous les rituels qu'il devait faire, il pouvait tomber raide mort, Dieu il le frappait. Puis ça n'a pas arrivé juste une fois, c'était quelque chose déjà d'annoncé par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous une fois que tu es dans la nouvelle alliance? Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui. C'était la job d'un sacrificateur. Ça nous dit, lorsqu'il s'approche de l'Éternel, il fallait qu'il se sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire, se sanctifier? Ça veut se purifier. Se sanctifier, ça veut dire devenir plus saint. Ça veut dire, s'il y a des choses qui déplaisent à Dieu dans notre vie, des péchés, des choses que Dieu n'aime pas, là, mais il fallait demander pardon, puis il fallait s'en détourner. Parce sinon, on arrive là-dedans comme si rien n'était, puis on était adultère, on était dans le péché, là, puis on rentre là-dedans, puis on pense, c'est pas grave, on est sur la glace. Mais non, wow, faut que tu crois que Dieu te regarde, puis Dieu te voit, est-ce qu'il va accepter ton sacrifice, est-ce que ta vie plaît à Dieu, ou si tu vis dans une manière qui déplaît à Dieu. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il faut que tu t'éloignes du péché. Tu peux pas dire, je suis chrétien, je suis sauvé, je m'en vais au ciel, puis tu es dans plein de péchés. Tu peux pas. Fallait que tu te sanctifies, c'est la même chose encore aujourd'hui. C'est dans le Nouveau Testament qu'il dit que celui qui invoque le Seigneur, il faut qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que le péché, ça nuit à notre communion avec Dieu. Notre relation avec Dieu est brimée si on déplaît à Dieu, puis on marche dans une manière qui l'offense. Dieu est trois fois saint, puis moi, je me permettrais de vivre dans la désobéissance, dans le péché. On ne peut pas se le permettre. C'est une responsabilité. Un autre avantage et responsabilité, les sacrificateurs, selon la loi, ils pouvaient entrer en tout temps dans le lieu saint. On voit ça dans Hébreu le 9, le verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie de l'habitation de Dieu dans le tabernacle. Dans la première partie, c'était le lieu saint, mais il ne rentra pas dans le lieu très saint, mais il pouvait rentrer en tout temps dans le lieu saint. Puis dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. L'avantage d'être un sacrificateur de Dieu, c'est que ça nous permet en tout temps d'entrer dans la présence de Dieu. T'es chez vous le matin, tu te réveilles, tu peux déjà prendre du temps puis être dans la présence de Dieu. T'es en train de laver la vaisselle, tu peux être en train de parler à Dieu puis être encore dans sa présence. Là, t'es en train de chauffer ton char, tu penses à Dieu, tu parles à Dieu, t'es encore dans sa présence. Quand t'es sauvé, t'es un sacrificateur puis t'as un accès en tout temps d'être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on a comme avantage dans la présence de Dieu? Sa paix, sa joie, son amour. Il y a plein de fruits qui sortent de notre vie change, on devient différent. Puis c'est une bénédiction incroyable parce qu'il y a une différence entre cet état-là puis l'état quand tu ne connaissais pas le Seigneur puis que tu vis, tu as des angoisses, des tourments, des péchés qui te tiennent captifs, puis t'es pogné, puis tout va mal. Puis quand tu deviens chrétien, peut-être qu'il y a encore des choses qui vont pas bien de temps en temps. Oui, il y a pas, on promet pas qu'on va avoir une vie sans problème, mais notre intérieur, il est différent. On est changé, il y a une autre attitude, d'autres pensées. On est en paix, puis on a confiance, puis on sait que notre vie est des mains du Seigneur, puis on avance par la foi, puis on se sent béni. On se sent béni d'être chrétien. Ça, c'est les avantages d'être dans la présence de Dieu. Mais plus fort que ça, à sa mort, quand Jésus il a expiré, il était à sa croix, son sang il versait, il était meurtri, ils l'ont frappé, ils l'ont fouetté, ils ont tout fait pour le martyriser. Puis quand il a expiré en mourant, il s'est passé un événement que Dieu nous a montré quelque chose de spécial. Dans le temple que je vous parlais tantôt, il y avait un gros voile, c'était comme un gros immense rideau bien épais, qui séparait le lieu saint où ce que les sacrificateurs pouvaient y aller comme qu'ils voulaient, mais ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Puis le gros rideau qui était là, ben quand Jésus a expiré, le rideau s'est déchiré du haut jusqu'en bas, que la Bible nous dit. C'est une référence-là dans Matthieu 27, 51. Dieu, le Père, a déchiré le rideau. C'est pas inhumain, le rideau était déchiré d'en haut. Ça avait peut-être 25-30 pieds de haut. Il était déchiré du haut jusqu'en bas, puis Dieu a ouvert l'accès. Il nous a démontré, dans cet exemple-là, que l'accès au sacrificateur, l'accès au lieu très saint était rendu, qu'on pouvait y aller comme qu'on veut dans la présence glorieuse du lieu trois fois saint, où ce qu'il y avait juste le souverain sacrificateur qui pouvait y aller. Jésus était déjà rentré dans le ciel, ce lieu-là, le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur, c'était le seul qui pouvait y retourner. Puis là, il nous a ouvert la porte, puis que nous autres, on s'en va là. La Bible nous dit qu'on est déjà assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, puis on attend juste le moment où Jésus revienne pour qu'on soit avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons entrer et se maintenir dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. C'est un accès ouvert à tous ses sacrificateurs de son royaume. Dans le temps présent, le rôle d'un sacrificateur, ça a d'autres tâches, là, comme entre autres d'être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. La job, la fonction là, d'un sacrificateur, c'est quelqu'un arrivait, il avait fait des péchés, ou il voulait offrir un sacrifice à Dieu pour remercier Dieu. Il amenait ça au sacrificateur. Il fallait qu'il passe par un sacrificateur, puis le sacrificateur prenait l'offrande, puis il l'offrait à Dieu. Puis là, si le gars voulait apprendre des choses sur la loi, il pouvait questionner, il recevait les réponses, qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu dit, puis en même temps, il offrait un sacrifice. Il y avait un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les humains. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Dans Hébreux 5.1, ça nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Un sacrificateur est établi pour les hommes. Voyez-vous, notre job d'être sacrificateur, oui, on a été choisi et on a été appelé par Dieu, mais ont été établis pour les hommes. Donc, on a une responsabilité envers les hommes qui nous entourent en tant que sacrificateurs de présenter la bonne parole, qui est la parole de Dieu, d'enseigner les voies de Dieu, de montrer aux gens quel est le sacrifice. Aujourd'hui, on présente plus de taureau à Dieu, on présente plus d'agneau à Dieu, on présente le sang de Jésus, on présente le nom de Jésus. Quand tu te présentes pour prier, c'est dans le nom de Jésus que tu pries. Si tu as commis des péchés, confesse que tu as fait des péchés, puis le sang de Jésus va te purifier. C'est plus le sang d'un agneau ou d'un taureau, c'est le sang de Jésus. Fait qu'on est là pour présenter aux gens la manière de s'approcher à Dieu, puis comment aussi obtenir de Dieu. Demandons les choses, non dans nos mérites, mais à cause que Jésus a tout accompli. Ça fait partie de notre job d'être un représentant face aux gens, face aux hommes. On a été choisis, puis on a une tâche à faire encore, c'est pas fini. C'est pour ça qu'on va évangéliser, qu'on passe des pamphlets. On veut que le monde sache comment faire pour s'approcher de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas encore qu'il y a un Dieu. Mais quand tu le sais, tu sais-tu comment t'approcher? Il y a tellement de religions qui t'offrent le plan. Nous, on n'est pas là pour parler de religion, on est là pour enseigner ce que Dieu a dit dans le Nouveau Testament, puis c'est là-dessus qu'on se base. On ramène ce qui est écrit. Puis on n'a pas de loi d'église, on n'a pas de rajout, puis on prend tout ce qui est écrit. Amen, c'est ça qu'il faut. Un autre bel exemple d'un sacrificateur, c'est d'être un intercesseur, c'est dans le sens, tu es en Dieu les hommes, mais tu pries. C'est une autre belle affaire qu'un sacrificateur doit faire. C'est ce que Jésus est en train de faire. Dans Romains 8, 34, ça nous dit que Christ est mort, puis il est ressuscité, puis il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Fait qu'un job de sacrificateur, c'est d'intercession. Fait que soyez pas surpris pourquoi qu'on a des réunions de prière. C'est parce qu'on prend du temps pour prier pour les hommes. On prie pour les besoins des frères et sœurs, mais on prie aussi pour les autres. Ça fait partie d'un job de sacrificateur. Puis c'est pour ça qu'il est important d'être là dans une réunion de prière, pour participer avec les frères et sœurs à ce combat-là d'un prière. Parce que nous, on est contents d'avoir reçu le salut, mais ça serait égoïste de garder tout ça pour nous, puis de pas qu'il n'y ait pas d'effort de notre part pour le partager, ce que d'autres puissent obtenir la même grâce que nous, voyez-vous? Je vous disais que c'est une grande vocation d'être un sacrificateur. C'est une bénédiction de pouvoir entrer dans le lieu de la présence du Dieu trois fois saint, puis de pouvoir lui demander des choses, puis de parler à Dieu des hommes, puis parler aux hommes de Dieu. C'est notre job. On parle à Dieu des hommes. On demande des affaires à Dieu pour les hommes, puis on parle aux hommes de Dieu, que Dieu est là, puis que Dieu veut qu'il marche dans sa parole, voyez-vous? Fait qu'on a une grande tâche à faire, c'est une responsabilité. On a des avantages, mais on a un rôle à jouer, on a des fonctions à faire, voyez-vous? Puis je vais terminer avec le futur des sacrificateurs. Qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur aux sacrificateurs? Mais le futur des sacrificateurs, c'est de revenir avec le Christ, puis de régner avec le Christ sur la terre. Je sais pas si j'apprends quelque chose de nouveau, ça se peut. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, là il attend, il donne du temps aux gens de se repentir. Puis il y a un moment fixé, puis ça s'en vient, ça sera pas long. Il y a des signes dans la Bible qui nous l'annoncent, puis on voit des choses qui se mettent en place. Jésus est à la veille de revenir du ciel avec tous les croyants qui sont des sacrificateurs de Dieu. Ils vont ressusciter avec Jésus pour revenir dans cette vie. Puis nous qui l'attendons, on va être enlevé avec eux, puis on va se retrouver avec Jésus sur un nuage. Puis Jésus s'en revient pour un jugement sur la terre, sur ceux qui ne sont pas repentis. Puis en même temps, il s'en vient pour établir son royaume pour un règne. On ne sait pas combien de temps, mais dans la traduction française, ils ont marqué 1000 ans. Mais le mot qu'il y a là, ils ne savent pas la valeur, mais il ne vient pas pour une fin de semaine. Il va venir pour longtemps. Il n'a pas créé tout ça juste pour une fin de semaine à son retour. Dans Apocalypse 5:10, ça nous dit, « Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le futur des sacrificateurs, ils régneront sur la terre. Nous sommes appelés, comme je disais, le mot sacrificateur veut dire chef aussi, pas juste prêtre. C'était le chef du peuple. Puis on va devenir, Dieu va faire de ses disciples, de ses sacrificateurs, il va faire de nous des chefs. Puis on va régner sur cette terre lors de son retour. Il y a un autre passage qui nous dit dans Apocalypse 20 au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ça, c'est la mort éternelle. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Voyez-vous, les sacrificateurs vont revenir avec le Christ, puis on va régner avec le Christ pendant la période indéterminée qu'on ne sait pas encore la valeur, mais on le verra, mais ça va être pour longtemps que Jésus va régner sur cette terre. Ça va être son royaume. Ça sera plus les gouvernements qu'on voit actuellement qui vont régner. Ça va être Jésus, ça va être ses disciples, ses sacrificateurs qui vont être établis en autorité sur la terre entière. On va voir, oui, enfin, le péché, ça ne sera plus comme ça se passe aujourd'hui. Croyez-le. Maintenant, je vais vous donner un dernier mot avant de vous quitter. Est-ce qu'il y en a qui ne se sentent pas dignes d'être un sacrificateur? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi, ça se peut pas que Dieu m'appelle à ce que je devienne un sacrificateur, puis que je puisse être dans la présence de Dieu, puis que Dieu écoute mes prières pour les autres, puis que Dieu il soit avec moi, puis que Dieu il m'emmène un jour à ce que je sois un chef? » Ça se peut qu'il y a des gens qui se disent « Moi, je me sens pas digne de cela. Moi, j'ai de la misère à voir qu'un Dieu si grand puisse m'offrir une place si importante dans le futur de l'histoire de la vie terrestre. » Mais il faut regarder des passages de la parole pour se remettre d'aplomb avec ce que Dieu dit. Il y a un dernier passage que je veux vous lire dans Hébreux chapitre 4, le verset 14 et 15. Ça nous dit... Mais je vais aller juste le verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, ça c'est Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Soyons fermes. Nous avons été appelés. Dieu a fait un œuvre dans nos vies. Il nous a pardonné nos péchés. Puis on a vécu des affaires avec Dieu qui nous prouve qu'on est des enfants de Dieu. Demeurons fermes. Ne nous laissons pas ramollir. Ne nous laissons pas aller au découragement. Restons fermes, ancrés solidement dans les promesses de Dieu. Ces journées-là vont s'accomplir comme ça l'a été dit par Dieu. Et un jour, il va venir nous chercher. Tous ceux qui l'attendent, ils vont se retrouver avec lui. Puis on va vivre les moments les plus incroyables. C'est inimaginable de se retrouver vivant pour l'éternité. Puis on va tous se reconnaître. Puis on va voir Jésus qui vient de nous emporter. Puis on va être fiers d'être là. Mais pour cela, ça prend de la foi. Tous les cadeaux de Dieu sont donnés gratuitement, mais il faut que tu les saisisses par la foi. Le salut est par la foi, pas parce que tu es un bon gars, pas parce que tu es une bonne personne, pas parce que tu as fait des exploits ou tu as donné tous tes biens aux pauvres, ça compte pas. En partant, ça prenait un seul péché, puis tu n'as aucune promesse de Dieu n'était pour toi à cause de tes péchés, mais aussi à cause du péché d'Adam et Ève. L'ensemble de l'humanité est né dans la mort, puis s'en va vers la mort. Mais si tu as la foi, tu peux saisir ce cadeau-là gratuitement aujourd'hui, d'accepter Jésus comme ton sauveur, puis que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés, parce que Jésus, il est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour tout le monde sur la terre. Puis il veut que tout le monde soit sauvé, puis c'est pour ça qu'on est encore dans les années de grâce. Dieu étire le temps. On est à l'an de grâce 2017. La grâce a commencé à Jésus, puis là maintenant, Jésus t'appelle Prends position pour Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Reçois-le, puis sois, fais partie de la gang des sacrificateurs qui va vivre l'histoire sans fin avec le Seigneur. Je fais un appel. S'il y en a qui... les fois, on entend des choses, puis on ça replace des idées dans notre tête. On en avait entendu, mais des choses qu'on ne savait pas. Puis là, on apprend, puis là, on réalise toutes ces affaires-là. Mais est-ce que tu veux être sauvé? Tu veux-tu aller au ciel? Il n'y a pas d'autre moyen que Jésus. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est pas Marie qui sauve, c'est pas les saints qui sauvent, c'est pas le pape qui sauve, c'est pas ta grand-mère qui est décédée qui sauve. Il y a juste Jésus seul qui sauve. Puis il faut que tu l'acceptes comme ton sauveur, puis que tu deviennes son disciple. Pour ceux qui veulent le faire, je vais faire une prière tout haut pour vous donner l'occasion d'accepter Jésus pour que vous puissiez être pardonné. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. C'est pas à des hommes, tu l'as fait, tu as confessé devant Dieu. Le plan du salut, c'est ça. C'est Jésus seul qui peut te sauver, puis il faut que tu te repentes, tu le laisses entrer. Si tu l'as fait la prière, tu es maintenant un sauvé. Marche par la foi, crois dans la parole de Dieu, va dans une église évangélique pour grandir dans le Seigneur, pour t'affermir dans le Seigneur, persévère dans la foi jusqu'à la fin de ta vie, puis on va se retrouver au bord un jour avec le Seigneur pour vivre cette histoire sans fin. Amen.